تشاو تشاو تشاو.
قالوا له قانون دولي يا قانون، العدل شفنا ولا سلام.
لا 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 لا، صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. لا 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 لا. يا محتل اطلع من أرضي اطلع، صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة عادية، القدس إلا يا حرام.
بإرادي قوية وحدي وطنية،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
رح ترجع بلدي كلها رح ترجع، وراح يدول الاحتلال. شعب الأحرار صاحب القرار،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
لا صفقة ظل ولا صفقة عار، فلسطين عربية يا حرام.
Bonsoir à tous et bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la voix sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui démarre pour cette émission ce soir. Vous venez d'entendre Cabaret Voltaire, un morceau qui s'appelle Spread the Virus. Eh oui.
Spread.
The Virus. C'est un morceau d'un groupe britannique, donc... Voilà. Pourquoi ce morceau? Ben, une fois de plus, parce qu'il est en lien direct avec l'émission, le thème de l'émission de ce soir. Puisque nous avons le très très grand plaisir d'accueillir ce soir Jean-Luc Chappet pour son livre qui s'appelle Pasteur et les antivax. Jean-Luc, tu es historien, tu es enseignant à l'université Paris 1, et ce livre sur Pasteur et les antivax, tu l'as publié aux éditions Agone, et bien cette année. Donc une fois de plus, on est dans le l'actualité chaude, hein, Michel.
De l'éditorial.
Voilà. On est en plein dedans. Donc on t'accueille avec grand plaisir ce soir. Autour de ce livre qui nous a beaucoup intéressé, puisque bah, comme son nom l'indique, il est à la fois consacré alors à la figure de Pasteur, à l'histoire de Pasteur, mais qui est très connue. Mais ce qui qui t'a intéressé toi dans cet ouvrage, et c'est surtout toutes les résistances et toute la diversité du mouvement anti-vax de l'époque, puisque Pasteur est la grande figure de la vaccination à la française et de la vaccination en France et au-delà, bien sûr. Mais ce que tu montres dans ce livre, c'est que, eh bien, en fait, dès le départ, il y a eu face à Pasteur tout un tas de groupes, de personnes qui, avec des arguments, voilà, parfois mauvais, parfois tout à fait entendables, se sont opposés à la mise en place des politiques vaccinales d'État en France sous la Troisième République. Alors, bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ton livre qui se lit très bien, mais donc peut-être que pour les auditeurs, on pourrait peut-être commencer dans un premier temps, c'est ce que tu peux en rappeler. Ton livre commence en fait au début de la Troisième République, hein, à un moment où Pasteur a déjà en fait une longue carrière et une notabilité déjà forte, puisqu'il a fait le début de sa carrière sous l'Empire quand même, le deuxième. Est-ce que tu peux peut-être rappeler ce que représente finalement Pasteur déjà dans l'histoire de la médecine d'État, pourrait-on dire, peut-être à la française, et de la science d'État même, hein, si on peut dire les choses comme ça.
Merci d'abord pour l'invitation. Oui, alors Pasteur, dans les années 1880, c'est quelqu'un qui déjà a une très grande réputation. Hein. Rappelons qu'il est né en 1822, il commence sa carrière véritablement à partir des années 1840-1850. Hein. Il va en effet, c'est un des savants qui va être promu et devenir très proche de Napoléon III. Hein. Il passera de très nombreux jours à Compiègne, invité par le couple impérial. Et c'est donc à partir du Second Empire, à un moment donné où la science se rapproche en fait des milieux d'affaires. Pasteur va avoir une carrière institutionnelle assez brillante. On va le retrouver professeur à Lille, Strasbourg, Dijon. On va le retrouver à la tête de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Tout ça à partir des années 1850-1860. Parallèlement, il mène une carrière de chimiste. Hein, c'est quelqu'un qui, dès le début, finalement, va se rapprocher des agronomes, travailler à des savoirs d'État. On lui demande, l'empereur lui demande par exemple d'intervenir dans certaines maladies des vers à soie, également pour trouver des solutions pour améliorer les cultures, la productivité. On est véritablement dans un savant, avec un savant pardon, qui est très proche des logiques d'État et qui également, ça c'est quelque chose que j'ai découvert finalement, qui met en place des stratégies financières dès le début de sa carrière, dès 1850-1860, avec toute une recherche qui est fondée sur le dépôt de brevets. Hein, okay. Alors il n'est pas tout seul à dire ça, hein, il y a d'autres grands savants de l'époque qui considèrent désormais que faire de la science, faire de la recherche, c'est aussi gagner de l'argent. Servir l'État et aussi gagner de l'argent. Et Pasteur, en fait, il représente hein, toute cette image. Et c'est vrai qu'à partir des années 1870, c'est un grand homme, hein, c'est un grand serviteur de l'État. Il est déjà réputé. Alors d'accord. Naturellement, ce qu'on peut se demander, c'est comment il va rebondir après 1870,
hein, après la chute de Napoléon III. Ouais, Napoléon III. Ouais. Et donc tu dis oui, donc surtout avec voilà une technique voilà liée la découverte scientifique dans une logique de dépôt de brevets, beaucoup sur commande d'État.
C'est ça.
Dans le développement de ce qu'on pourrait appeler les prémices de l'agriculture industrielle.
C'est ça. C'est
hein,
exactement ça.
Avec des financements dedans. D'État.
Avec des financements privés la plupart.
Ah
du
d'accord.
Temps.
Des financements privés.
Des financements privés. Donc oui, c'est quelqu'un qui travaille en quelque sorte. Vous voyez, c'est dans l'héritage de Lavoisier, Chaptal, de tous ces savants qui travaillent au service de l'État et en particulier dans tout ce qui concerne les domaines de l'agriculture et de l'agronomie.
D'accord.
Donc il est proche des milieux d'affaires. Quand il est professeur à Lille, il est proche des brasseurs. Quand il est à Strasbourg, on va le retrouver près des propriétaires de propriétés de sériculture, les vers à soie. Donc il est véritablement proche de tous ces milieux industriels qui sont représentants en France et qui sont des lobbies assez puissants par le biais des sociétés d'agriculture hein, qui forment un réseau très étroit, très dense. Ce sont des groupes de pression assez influents sur l'État. Et Pasteur, véritablement, vous voyez, est reconnu. Il y a de très nombreux articles de journaux. Il est reconnu comme un bienfaiteur hein, dès le Second Empire parce que justement il permet hein, de lutter contre un certain nombre de ce qui est considéré à l'époque comme des fléaux naturels. Lui apporte des solutions.
Et ça, c'est très important aussi que tu le rappelles, c'est qu'en fait, au départ, évidemment, donc c'est l'agriculture, l'agriculture industrielle qui l'intéresse, et sa formation, lui, au départ, est une formation de biochimiste.
Il est complètement chimiste, hein, voilà. Tout à fait. Hein, il participe d'ailleurs à des débats scientifiques. très pointu dès les années 1860. Par exemple, il s'attaque à un grand débat, et d'ailleurs qu'il va vaincre, entre guillemets, hein, c'est est-ce qu'il y a la génération spontanée. C'est un débat qu'il va l'affronter avec un grand savant à ce moment-là de Rouen, Pouchet. Et, donc Pasteur, hein, c'est un scientifique assez brillant, hein, il faut bien le dire, hein, qui parvient justement à résoudre un certain nombre de questions. Il prend part à des débats à l'Académie. À l'Académie des sciences. Et donc, il cumule des activités institutionnelles, des activités d'homme d'affaires et des activités scientifiques. Et on pourrait dire des activités politiques, puisque quand il est nommé à la tête de l'ENS d'Ulm, eh bien, il va très rapidement ramener l'ordre. Hein. Ce sont des écoles comme Polytechnique, où je dirais l'esprit républicain reste en quelque sorte assez, assez vif. Et Pasteur va se montrer particulièrement sévère pour ramener la discipline. Donc on voit, c'est quelqu'un qui en même temps est un grand homme d'État, mais qui suscite déjà sous l'Empire un certain nombre de critiques, de réserves.
Hein. D'accord. Et donc il y a la chute de l'Empire, donc voilà, Sedan, la chute de Napoléon III, la Commune, voilà, et puis l'arrivée de la Troisième République. Donc on pourrait s'attendre à ce que, en fait, il passe un peu à la poubelle avec tous les notables et avec l'establishment impérial au moment où la République se met en place. Or, ce que tu montres au début de ton bouquin, c'est que ça va pas du tout être le cas. C'est-à-dire c'est qu'en fait, il a un sens de l'opportunité politique, certain, qui fait que en réalité, ça va passer crème et qu'en fait, il va endosser avec beaucoup de souplesse les habits du savant républicain.
Pour c'est le ça, coup. C'est ça. Alors ça se fait progressivement, hein, mais en fait, faut pas oublier que quand il y a le passage, ce sont des années un peu tumultueuses entre finalement les années 1870-1875, où il y a finalement une continuité dans les rouages de l'État. Hein. Il y a un certain nombre de soutiens de Pasteur qui finalement gardent des postes importants. Et c'est vrai que Pasteur, il va se faire soutenir par des grandes personnalités qui vont devenir des grandes personnalités républicaines. Un des premiers à le soutenir et qui va toujours le soutenir, c'est Paul Bert, par exemple. Okay. Hein, dès les années... Il faut savoir que Pasteur fait quelques erreurs. Hein. Il se présente, il tente de se présenter à des élections. Il considère que son nom seul suffit. Il présente aucun programme. Il se fait ramasser aux premières élections. Il a quand même un souci dans sa tête. C'est il a besoin d'être soutenu par l'État, hein, avec une obsession de peur de manquer d'argent. Et donc, très rapidement, en 1874, eh bien, il va recevoir une importante pension, une dotation de l'État qui va lui permettre de mettre en quelque sorte le pied à l'étrier et de repartir dans des recherches qu'il continue à mener dans le domaine de la chimie. Hein, et c'est à partir finalement de la fin des années 70 qu'il va commencer à s'intéresser. Donc on est là, vous voyez, avec Pasteur, il y a aussi une dimension importante après la défaite de 70, c'est une dimension nationaliste. Hein, il y a une concurrence entre la France, Pasteur, et puis l'Allemagne, avec une grande personnalité scientifique dont on parle beaucoup à l'époque, qui est Koch, qui travaille sur le choléra, etc. Qui va découvrir le bacille du choléra. Et en fait, Pasteur va progressivement s'orienter à partir des années 1875-1880 vers la médecine animale. Hein, c'est-à-dire toutes les maladies pouvant susceptibles de toucher les cochons, les vaches,
toujours
le choléra,
finalement dans la continuité de ce qu'il faisait avant.
Continuité.
On est dans l'agriculture, mais
avec
pour
désormais
l'élevage, quoi.
Voilà, l'intérêt porté à découvrir ce qu'il commence à appeler, et qu'on va appeler à partir de 1867, le vaccin pour un certain nombre de maladies, exclusivement les maladies animalières, hein, qui étaient des grands fléaux à l'époque. Hein, donc là, on rentre en effet dans une autre dimension, hein, mais qui s'inscrit dans la continuité d'une sorte de savoir de l'État au service, là encore, de l'agronomie.
Ok. Et donc c'est comme ça, c'est comme ça qu'il va justement concevoir et petit à petit se fixer sur la recherche donc du vaccin, comme tu le dis. Et c'est là évidemment, donc ça c'est le cœur de ce qui t'intéresse toi dans le livre, qui va. Alors tu dis les choses, elles commencent à devenir chaudes, particulièrement politiquement, à partir du moment où va être mis sur la table une proposition de loi d'obligation vaccinale. Alors cette fois-ci à l'égard des humains,
c'est ça.
De la population.
C'est ça.
Alors, tu peux nous expliquer comment ça se met en place, en fait.
Oui, parce que Pasteur n'avait pas le droit de vacciner par lui-même, il n'était pas médecin, et donc il s'était bien gardé, c'est ce que tu expliques.
Tout
donc,
à fait.
Comment est-ce qu'on est passé, finalement, de la médecine animale, limite de vétérinaire d'État, à vaccinateur de tout le monde.
Il faut savoir qu'il y a une maladie qui est particulièrement mortifère en France et dans le monde entier, c'est la variole. La variole, on en parle déjà au XVIIIe siècle. Et quand Napoléon Ier arrive au pouvoir en 1799, une de ses premières décisions, c'est d'introduire ce qu'il appelle la la vaccination contre la variole en introduisant ce qu'on appelait à l'époque l'inoculation de un Anglais, Jenner, d'accord, qui a été le premier à inoculer la vaccine naturelle qu'on retrouvait sur les pies de vache. Donc, une sorte d'opération technique assez novatrice que Bonaparte va introduire et qui va devenir en France, en quelque sorte, une entreprise d'État à partir de l'Empire. On fait vacciner de très nombreux enfants, en particulier les enfants abandonnés. Donc la question de la vaccination et de la lutte contre la variole, c'est quelque chose qui prend racine, en quelque sorte, dans le début du XIXe siècle. Okay. On va pouvoir s'appuyer sur l'appareil d'État, les préfets, les évêques, avec des problèmes financiers. Donc cette vaccination n'est pas totale, mais elle est impulsée par l'État. Il faut savoir qu'il y a encore à Paris des grandes cette variole, elle est mortifère. En février 1880, il y a plusieurs dizaines de milliers de morts à Paris du fait de la variole. Donc dans ce contexte français et européen, c'est-à-dire que faut savoir que l'obligation de la variole, elle est mise en place en Angleterre dans les années 1820, elle va être progressivement élargie au monde entier, en Allemagne, dans les États italiens. En France, elle apparaît à partir de déjà sous le Second Empire, on en parle. Mais là, en 1880, au printemps 1880, il y a un député qui s'appelle Liouville qui va proposer à l'Assemblée nationale d'imposer, de rendre obligatoire la vaccination et la revaccination de toutes les populations. Alors, il faut savoir que certaines populations étaient déjà plus ou moins vaccinées en France contre la variole, plus que moins d'ailleurs, les soldats. D'accord ? Et les enfants. Et là, Liouville, il décide en quelque sorte d'étendre cette vaccination à l'ensemble des populations. Et surtout, vous voyez, quand j'ai écrit ce livre, j'avais naturellement en tête un petit peu le contexte, de rendre obligatoire. C'est-à-dire, cette obligation, elle est liée à des mesures de contrainte, comme un pass sanitaire, une répression, c'est-à-dire l'idée que ceux qui ne se feraient pas vacciner auraient leur nom affiché sur la porte des mairies. D'accord. Et puis toute une série d'interdictions concernant la non-scolarisation des enfants et l'impossibilité pour les soldats de devenir militaires.
Et ça, c'est une particularité française, ça ?
Pas du tout. Cette politique, finalement, elle est déjà appliquée ailleurs, dans certains États suisses, en Allemagne, etc. Mais c'est vrai que en Angleterre, elle fait l'objet depuis les années 1830-1840 de très violentes oppositions avec des associations, des structures, liant justement des associations ouvrières et religieuses. Et finalement, Liouville, il va synthétiser toutes ces lois qui sont déjà prises ailleurs pour la proposer en France.
Et donc là, Pasteur va basculer dans autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, de vétérinaire d'État ou de breveteur d'État pour l'agronomie, il devient potentiellement le vaccinateur d'État de la population française.
Alors en fait, ce qui est assez intéressant, si vous voulez, c'est qu'au départ, en 1880, lorsque est proposée cette loi, Pasteur, il ne s'occupe pas de la vaccination humaine. Et c'est progressivement, en fait, dans les années 1880, au début des années 1880, c'est-à-dire au moment où se met en place véritablement la Troisième République, que Pasteur, progressivement, va décider de s'intéresser à la vaccination humaine. On pourrait croire qu'il s'interroge justement sur des maladies particulièrement mortifères, la variole, le choléra, il y avait d'autres maladies qui tuaient, et il va s'intéresser à une maladie qui ne tue pas forcément beaucoup, mais qui est très spectaculaire, la rage. Okay. Et finalement, c'est à partir de 1880 où là, il va devenir le vaccinateur d'État. 1880, il y a une grande expérience qui est faite de manière publique près de Melun, qui va devenir l'expérience, une sorte d'événement médiatique où Pasteur montre le succès qu'il a à vacciner des animaux contre la variole, selon sa technique. C'est-à-dire que contrairement à la vaccine de Jenner, Pasteur, il fabrique un vaccin, non pas de manière naturelle, mais dans un laboratoire. Il produit ce qu'on appelle un vaccin atténué. Et il y a des débats autour de ça.
Alors ça, c'est très important ce que tu dis là, parce que on en va reparler après. Mais effectivement, la particularité aussi du travail de Pasteur, c'est ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un chimiste, un biochimiste. Donc, il travaille en laboratoire. Et donc, ça lui permet... Bon, il y a cette logique de brevet, la collusion avec l'État, avec l'industrie agronomique dont tu as parlé. Mais le secret du laboratoire, en fait, derrière ça, il y a tout un modèle, y compris de la découverte scientifique et de l'autorité du scientifique, je dirais, derrière ça. C'est-à-dire que le laboratoire, il est fermé.
Voilà.
Il est fermé, on ne sait pas forcément ce qui s'y passe, et tant qu'il s'agit de vacciner du mouton, du cochon, ou de produire des ferments pour la levure de bière ou pour d'autres, finalement, ça ne pose pas forcément d'enjeux politiques particuliers, mais à partir du moment où il s'agit de vacciner une population, population humaine, là, effectivement, cette culture, le secret du laboratoire devient un problème politique.
Bien sûr.
Et médiatique, comme tu l'as dit, parce qu'effectivement, Pasteur sait très bien donner à voir ce qui, médiatiquement, a de l'impact et a de l'efficacité. Et ça, effectivement, c'est un point sur lequel tu insistes beaucoup. C'est-à-dire que les réactions, évidemment, par rapport à ça, elles partent de ce problème qui est un problème politique réel. C'est-à-dire que c'est en secret. Que se fabrique ça, en fait. Ça, c'est
Pasteur, il représente une réelle rupture, en fait. Alors, c'est pas une image postérieure. C'est-à-dire qu'au moment où il fait ses travaux, ce qu'on lui reproche, c'est moins de travailler dans le secret. C'est qu'il n'explique pas comment il est arrivé à ce résultat. Et il y a une tradition, on va dire, depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle, où en France, la science, en quelque sorte, doit faire l'objet d'une validation commune et collective. Et quand il commence à présenter ses travaux, c'est-à-dire à faire des expériences, ce qu'on lui demande, aussi bien à l'Académie des sciences qu'à l'Académie de médecine, c'est de venir publiquement expliquer comment il est arrivé à ce résultat. Et paradoxalement, Pasteur refuse.
Et paradoxalement, alors c'est quoi tes éléments d'explication de ça, en fait? Il construit son propre mythe, il verrouille sa propre autorité, il veut se garder la main sûre.
Disons qu'il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que je pense qu'il a besoin de garder le contrôle de la fabrication de ces nouveaux procédés. Et en effet, Pasteur, il est quand même dans une stratégie de rupture. On le voit particulièrement quand on lit sa correspondance. Mmh. Pasteur, c'est pas quelqu'un qui travaille en commun. C'est quelqu'un qui voit le monde savant selon un plan de bataille. Et en fait, quand il commence en quelque sorte à recevoir des critiques, Pasteur, il réagit très violemment. Il y a des anecdotes qui sont connues. Il va se battre en duel contre le doyen de la faculté de médecine. Enfin, il a une posture qui ne correspond pas du tout, en fait, on pourrait dire à l'éthique scientifique qui était quand même très majoritaire à l'époque, c'est-à-dire on discute ensemble. Et je pense que derrière ça, il y a une véritable stratégie qui lui permet, en fait, non seulement de garder un secret, mais de ne pas répondre. Parce que, on imagine bien, et on le voit quand même aujourd'hui, les vaccins gardent quand même un petit côté mystérieux. Pasteur lui-même ne sait pas, à mon avis, expliquer complètement comment il est arrivé à ce résultat. Donc, ça lui permet de se tenir à l'écart de certaines, et on le verra peut-être tout à l'heure, il est clair que certains de ses collaborateurs ont dû mentir pour préserver l'intégralité,
voire falsifier, comme tu dis. Bon, et donc alors on va aller vite sur cet aspect là mais effectivement donc il y a effectivement des résistances très fortes, on va en parler après, mais ça marche, c'est-à-dire qu'en fait alors ça marche non seulement en France, c'est qu'il y a le contexte français que tu décris très très bien, mais il a aussi assez rapidement une aura à l'international, il est accueilli partout, reçu partout, et ça va devenir en fait la figure comme tu dis du scientifique d'État, mais du scientifique, alors pour le coup, c'est des gros mots pour nous, mais il y a un côté un peu, c'est l'incarnation du biopolitique à la française, quoi, en fait. C'est vraiment celui qui s'occupe, de la santé de la population. C'est presque une délégation de services publics, qu'il a là, avec tous les honneurs qui vont avec l'enterrement de première classe quand il va mourir. Donc il y a cette figure-là, jusqu'à devenir, presque une espèce de pilier, comme tu dis à un moment, la Troisième République, finalement, c'est quoi? C'est l'instituteur, l'école, l'empire et les vaccins.
Et les vaccins.
D'une certaine manière. Et donc, les vaccins, c'est Pasteur.
C'est ça.
En l'occurrence. Donc, effectivement, il y a cette figure très particulière de Pasteur, liée à un moment de l'histoire de la République en France, de la Troisième. Et donc, comme on l'a dit, effectivement, c'est aussi par les réactions et par les oppositions qu'il va susciter qu'on peut comprendre aussi ce moment-là.
C'est ça.
Voilà. Bon, on va peut-être faire une première pause musicale avant de passer à la suite de l'émission.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et donc ce soir, on accueille Jean-Luc Chappet avec un grand plaisir pour son livre publié chez Agone très récemment. Un livre intitulé « Pasteurs et les antivax ». Vous venez d'entendre un morceau de Girlwood, « Vaccines make me gay ». Et évidemment, puisqu'on parle de pasteurs, et on parle de... Là, dans la première partie, nous avons donc évoqué le pasteur, comment dire, le pasteur un peu mythifié, mais qui a malgré tout une carrière relativement sinueuse, puisqu'il va passer de soutien ardent de l'Empire à, comment dire, à symbole de la République, d'une certaine manière, à travers justement tout son travail sur la vaccination humaine, qui est le travail de la fin de sa vie, et qui est, au sens, presque un peu accidentel, au sens où, comment dire, il n'avait pas a priori prévu de s'attaquer au problème de la vaccination humaine. Et maintenant, ton livre, donc, Pasteur et les antivax, c'est un livre qui s'intéresse beaucoup à tous les opposants qu'il a eu. Alors, nous, on a grandi peut-être dans la fin du mythe Pasteur. Je suis pas sûr que pour les jeunes générations actuellement, Pasteur représente ce qu'il a pu représenter dans les récits de nos grands-parents ou avec aussi le grand, comment dire, le grand danger représenté par les microbes. Non, touche pas ce papier par terre, il y a des microbes dessus. Je sais pas trop où on en est là-dessus, mais un truc que moi j'ignorais complètement et que j'ai découvert en lisant ton livre, c'est à quel point finalement, loin de la figure mythifiée qui m'était apparue moi quand j'étais enfant, c'est quelqu'un qui a fait l'objet de critiques extrêmement virulentes, venant de différents milieux, venant de différentes, comment dire, de différents horizons, avec, comment dire, il faut bien le dire, pas que des idiots. C'est-à-dire tout un tas de gens qui... Entre l'état des connaissances scientifiques de l'époque de Pasteur et les problématiques politiques qui pouvaient être posées par justement la vaccination, finalement posaient des arguments qui étaient assez intéressants et qui méritaient sans doute d'être pris en compte. Mais comme on a dit auparavant, justement Pasteur, depuis le secret de son laboratoire, a eu une stratégie assez particulière qui consistait à surtout ne jamais répondre finalement à tous ces gens-là. Or, parmi les opposants, il y a Louise Michel, il y a tout un tas de gens comme ça qu'on pourrait peut-être évoquer. Quels sont ceux qui te semblent, toi, les, comment dire, les, en quelque sorte, les piliers ou du moins les jalons importants dans la critique qu'il y a eu pu avoir de Pasteur ?
En fait, la première étape de ce travail, c'est réalisé quand j'ai découvert l'existence, justement en 1880, de la création et la réunion à Paris d'une ligue internationale des anti-vaccinateurs. Une ligue donc, qui se réunit au moment où ont lieu les débats parlementaires sur l'obligation vaccinale. Cette ligue, elle s'installe, elle fait des réunions publiques à Paris, elle est reçue par le président de la République, par certains ministres. Et dans cette ligue, vous avez des Anglais, des Allemands, et elle est dirigée par un personnage, une figure que j'ai découvert, qui s'appelle Hubert Boens, qui est un médecin belge, qui est né en 1825, il a à peu près le même âge que Pasteur. Et c'est en effet un médecin qui est loin d'être un type complètement loufoque, c'est quelqu'un de très sérieux, qui est devenu médecin professionnel. Il a fait une carrière, lui, il est médecin, il a été dans les hôpitaux, il s'est installé à Charleroi. Charleroi, en 1850, c'est une des plus grandes cités ouvrières, cité du charbon. Il se spécialise dans les maladies professionnelles. Il a une carrière de médecin, il a une carrière politique, il est proche des réformateurs, des socialistes. On va le retrouver fréquentant cercles, sociétés, partis. Il anime des journaux. Et à partir des années 1860, il prend même position dans certains scandales liés à l'Église. C'est un anticlérical. Il se dit en 1870 rationaliste, socialiste. Donc c'est quelqu'un qui en fait est assez représentatif de tout un milieu médical qu'on trouve en Belgique mais aussi en France, qu'on va retrouver en fait proche de la Commune. Quand les exilés arrivent, Boens va se retrouver avec comme ça pas mal de réseaux français. Boens, il est intéressant parce que à partir de 1880, il va en effet se spécialiser. On voit dans ses traductions, dans ses publications, il se spécialise dans la lutte contre justement cette obligation vaccinale. Pour des raisons politiques et scientifiques. Raison politique, c'est que lui, on n'oblige pas au vaccin. Il dit peut-être que les vaccins, en effet, sont utiles, mais quand on ne le sait pas, quoi qu'il arrive, on n'oblige pas. il faut enseigner, il faut convaincre, donc au niveau des libertés individuelles. Et il faut savoir que cet argument, avant même l'argument scientifique, on va le retrouver en France. Un des relais français de ce mouvement anti-vax en France, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui porte un nom aussi très célèbre dans le milieu scientifique, c'est Benjamin Raspail, qui était le fils de François-Vincent Raspail, mort en 1878, et Benjamin Raspail se retrouve député à la Chambre, et c'est lui qui va servir en quelque sorte de relais à ce groupe des anti-vax. Donc c'est un groupe qui est en même temps institutionnalisé dans cette ligue internationale des anti-vaccinateurs, qui vont avoir un rôle de pression partout en Europe. Dès qu'il y a un débat sur l'obligation vaccinale n'importe où en Europe, eh bien ils y vont. En 1883, ils sont donc à Cologne. Ils vont revenir à Paris en 1889. C'est véritablement, je dirais, le cercle qui donne corps, en quelque sorte, qui cherche à synthétiser tous ces arguments des anti-vaccinateurs. Parce qu'il faut savoir que la nébuleuse des anti-vaccinateurs n'est pas forcément unie, homogène. Hein. Les arguments sont très différents et très divers.
Oui. Tu l'as dit, en même temps, il y a une opposition. Il met en avant donc, la liberté individuelle, ça c'est l'argument politique, mais t'as un argument scientifique aussi derrière. Oui, en fait, lui, il défend une conception alors, beaucoup plus hygiéniste, collective et préventive, finalement, hein, de ces maladies-là, ce qui est une logique de santé publique aussi.
Exactement. C'est-à-dire que lui, il met en cause l'idée même de vaccination. Il considère que le vaccin même peut être dangereux. Hein. Ce qui n'était pas une idée complètement neuve à l'époque. Hein. C'était quelque chose qui était déjà débattu pendant tout le 19e siècle. Et cette idée finalement de liberté individuelle, il faut savoir, c'est ce qui va justifier le fait que la loi Louville va être rejetée. Hein, c'est-à-dire que cette loi, elle va être attaquée par beaucoup de républicains qui vont dire que finalement, Oui, je me souviens d'une phrase. On va mettre en quelque sorte, on va mettre en parallèle la loi Louville avec certaines lois scolaires portées par Jules Ferry, en disant l'État n'a pas à gouverner nos corps comme il n'a pas à gouverner nos esprits. C'est pas qu'on refuse le vaccin, mais on refuse justement toutes les contraintes publiques. Comme je rappelais tout à l'heure, le pass, les contraintes, les noms affichés. Hein. Et Benjamin Raspail, c'est ce qu'il va aussi dire, hein, défendre la liberté individuelle.
Je te cite, là, je me permets quand même. Hein. C'est page 199, tu rappelles, donc c'est toujours à propos de Boas dont tu parlais. C'est le point de vue qu'il défend. Hein. Il dit « Combattre les épidémies, comme la criminalité ou l'alcoolisme, oblige les législateurs et les hommes d'État à s'occuper de l'art de vivre, qu'on appellerait aujourd'hui l'environnement ou les conditions de vie des populations. Les soins ne pouvant se réduire à la lutte menée contre les microbes. Partisan des théories qui plongent dans l'héritage néo-hippocratique, Boas interprète ainsi la victoire de Pasteur, entre guillemets, c'est une formule de Boas, chimiste halluciné, étranger aux sciences positives. Donc il interprète cette victoire comme le pur produit de la volonté du gouvernement français de se servir de la science pour promouvoir le sentiment nationaliste aux dépens d'un véritable programme de transformation sociale en faveur des ouvriers des plus démunis. Donc effectivement, une conception politique un peu globale aussi derrière ce qu'il dit. Et ça effectivement, c'est intéressant dans ton livre, parce que c'est pas quelque chose qu'on s'attendrait à trouver du côté d'une position anti-vax qui est très vite en fait réduite à une forme d'irrationalisme ou de libertarianisme un peu individuel, un peu foutraque, et sans vision un peu globale. Or, il défend bien une conception de la santé publique. Lui.
Bien sûr. C'est ce qui m'a semblé intéressant de revenir un petit peu. Alors, c'est pas l'origine, hein, mais l'origine de ces combats contre les vaccins, parce qu'on s'aperçoit que justement ce combat, il soutient en quelque sorte une vision du monde. Hein, et cette vision du monde, en effet, elle passe par une réflexion qui n'est pas simplement une réflexion médicale, mais qui est une véritable réflexion politique et sociale. L'idée des hygiénistes, hein, qui naturellement vont perdre des plumes dans cette bataille, avec Bruno Latour l'avait montré. Hein. Mais l'idée des hygiénistes, c'était pas forcément complètement idiot. C'était de dire que les maladies devaient être soignées par une réflexion d'ensemble, par une réflexion sur l'environnement, sur
et
le
préventive.
Milieu.
Préventive,
et préventive. Voilà. Et donc, cette réflexion va rejaillir à ce moment-là en disant que finalement, Pasteur, lui, ne fait que soigner ce qui n'est que le symptôme. Et il faut revenir à une sorte de vision générale qui va être d'ailleurs défendue par de très nombreux médecins qui, justement, vont prendre position contre Pasteur. Il faut savoir qu'en 1880, Pasteur va se faire attaquer via, en effet, des groupes de médecins. hein, qui vont lui reprocher en quelque sorte de ne pas soigner les bonnes maladies finalement.
Et d'être un chimiste.
Et surtout d'être un chimiste.
Et pas un médecin. Et ça, c'est un truc qui est qui revient souvent dans ton livre. C'est justement, on lui dit, vous étudiez des maladies de laboratoire, vous faites des médicaments de laboratoire qui sont complètement coupés du patient. Alors que la maladie, elle s'étudie in vivo dans le corps du patient, en un sens. Avec aussi tout le soupçon que, finalement, Pasteur est en train de créer une maladie, artificielle, dans son laboratoire.
Bien sûr. Et en fait, il faut savoir que lui-même a été très critique et très sévère contre le corps médical. Hein, à partir de 1883-1884, c'est-à-dire juste avant ce qui va lui permettre, je rappelle, juillet 1885, c'est la première vaccination humaine, mais avant, il est très sévère. Il dénonce en quelque sorte, il dit que les médecins jusqu'alors n'ont absolument rien compris sur les maladies humaines. Donc il faut savoir un petit peu, il faut rappeler cette virulence, des tensions qu'il pouvait y avoir. Mais en effet, les médecins qui étaient contre lui défendent également l'idée de santé publique. Ce ne sont pas du tout des gens qui sont contre la science.
En tout cas, il y en a, mais en fait, une minorité est...
On verra, c'est pas tout à fait les mêmes. Mmh. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas la science de Pasteur. Mmh. Ils veulent une autre science. Alors c'est vrai, hérité peut-être de mouvements un peu plus anciens. On parle de néo-hippocratisme. C'est un courant qui privilégie justement l'attention apportée au milieu, qui reste très puissant en France. Et eux sont absolument pas, donc, si vous voulez, opposés. D'ailleurs, très souvent, quand on pense à Benjamin Raspail, qui est le fils de Raspail, lui, il n'est absolument pas du tout dans une démarche anti-scientiste. Lui, il ne fait que rappeler que, d'abord, Pasteur n'a pas forcément tout inventé, parce qu'il faut savoir que Pasteur se présente toujours comme celui qui a tout inventé. Donc, il lui dit, vous n'avez sûrement pas tout inventé.
On peut lui reconnaître ça, ce talent de communicant, quand même.
On peut lui reconnaître.
Ouais.
On peut lui
reconnaître. Ouais, c'est impressionnant dans la manière dont on parle.
C'est-à-dire qu'il il contrôle les médias. On pourrait dire aujourd'hui, c'est lui qui contrôle en quelque sorte.
Et c'est nouveau, ça?
Disons que au niveau scientifique, il y a eu quelques grandes personnalités. Il y avait un autre chimiste avant Pasteur qui d'ailleurs lui a servi en quelque sorte de modèle, qui s'appelle Jean-Baptiste Dumas, qui déjà se servait des médias. Et avant lui, il y avait un certain François Arago, qui aussi se servait, on va dire, des médias. On est dans une période quand même où la médiatisation de la science participe du discours savant. Donc chacun se sert en quelque sorte. Mais lui, c'est vrai que Pasteur se sert d'un discours et des médias qui ne sont pas du tout à sa botte, néanmoins qui relaient une parole face à laquelle il devient de plus en plus difficile de se faire entendre.
Alors parmi les oppositions, tu notes aussi, tu as un grand courant qui est en fait tous les opposants à la vivisection.
C'est ça. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il va y avoir une sorte de collusion progressivement entre les anti-vaccinateurs et en effet les adversaires de la souffrance animale. Alors ces adversaires de la souffrance animale en France, ils commencent à se structurer dans les années 1850-1860 autour de grandes sociétés comme la Société de protection des animaux. Et c'est vrai que faut quand même rappeler que Pasteur, en 1885, quand il commence ses expériences. Il fait des expériences sur des animaux. Il faut imaginer le laboratoire de la rue d'Ulm, là où il a son premier laboratoire, comme un véritable zoo. Il a des chiens, il a des cochons, il a des singes. Il fait des expériences sur le cerveau des animaux, en particulier des singes et des chiens. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, d'accord, que l'on coupe le crâne de l'animal et qu'on va lui injecter des microbes. Ça va poser un certain nombre de problèmes. D'abord, des problèmes de voisinage. Il faut savoir que très rapidement, les voisins se plaignent. Et naturellement, la presse va s'emparer de tout ça. Et très rapidement, à partir de 1885, je dirais, Pasteur va devenir le symbole de cette violence faite aux animaux. La violence de la science faite aux animaux. Mmh. C'est pas le premier. C'est pas le premier à faire ça. Mais lui, on découvre, en quelque sorte, le cheptel qui est le sien. Et au-delà des pointes des plaintes du voisinage, il faut savoir que lorsqu'il voudra quitter la montagne Sainte-Geneviève et trouver un autre lieu dans Paris, il va se heurter à de très nombreuses oppositions.
Ça va être tous les débats que tu rappelles aussi autour de la création de l'Institut.
Exactement. Il faut savoir que aller dans le 15e arrondissement de l'époque, à l'époque, ce n'était pas du tout une zone, attractive. Et c'est lié à tout ça. Donc, si vous voulez, la cause animale va jouer un rôle très important. parce que ça va aussi, je dirais, amener, cristalliser des personnalités. Hein, on parlait de Louise Michel, on parle du coup plus haut. Il y a plusieurs personnalités féministes qui vont s'engager dans le combat contre Pasteur, du fait justement de cette guerre contre la souffrance animale. Hein, donc ça va attirer en quelque sorte sur cette lutte contre Pasteur, je dirais, tout un effet un peu spectaculaire. Il ne faut pas oublier, il y a naturellement les réunions publiques, il y a des conférences publiques, il y a les affiches. Hein, la presse s'empare, hein, ça fait débat. Il faut savoir que désormais, quasiment, certains journaux quasiment, donnent des nouvelles de cette lutte quasiment de manière quotidienne. Hein, donc,
Et d'ailleurs, là-dessus, sur le déménagement hein, de la rue d'Ulm jusqu'à Vaugirard, là, sur l'Institut, tu le dis, c'est une troisième composante. Alors là, c'est pareil, qui est très intéressante, je trouve, qui est propre, en fait, à la vie politique parisienne. Tu dis, hein, qu'il y a aussi effectivement une mobilisation de tous ceux qui, alors dans une tradition qui est finalement révolutionnaire, et communarde, post-communarde, on va dire, qui veulent maintenir une espèce de souveraineté parisienne, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, et qui sentent que là, il y a quelque chose, il y a une autre forme de souveraineté d'État, en fait, qui est derrière, en fait, les succès et la promotion de Pasteur, et qui vont donc se mobiliser aussi. Contre Pasteur, contre ses projets. Alors avec pareil, toujours donc la question politique, question médicale. On va essayer de faire un peu feu de tout bois derrière ça. Mais donc ça aussi c'est une composante intéressante, ça, pour le coup, qui est...
Oui, c'est une sorte de municipalisme.
En fait. C'est ça. Hein,
cet idéal municipal. On est sous la Troisième République où l'État domine. Et finalement, alors pas toutes les municipalités, j'ai repéré que c'est la municipalité du 4e arrondissement hein, qui semble particulièrement virulente dans l'opposition à accorder en quelque sorte des mètres carrés nouveaux à Pasteur. Ils parviennent, en fait, c'est ça qui est intéressant, ils parviennent justement à empêcher, hein, Pasteur veut plusieurs lieux et finalement il ne parvient pas à obtenir ces lieux et donc il va être obligé de se rabattre sur un lieu beaucoup plus éloigné. Hein, donc il parviendra néanmoins à faire un lieu attractif, on va dire. Mais on voit que c'est vrai que ces oppositions, en fait, partent de lieux et de motivations très différentes. Hein, et finissent finalement pas vraiment à se coordonner. Hein, c'est-à-dire qu'en dépit des efforts de Boins, en dépit des efforts de Benjamin Raspail, il y a finalement la difficulté à faire front uni.
D'autant que il y a aussi parmi les anti-pasteurs, les anti-pasteuriens, on va dire, il y a aussi des réactionnaires absolument anti-scientifiques, anti-républicains. Tu en parles aussi. En fait, proche voilà de la réaction monarchiste d'extrême droite, on va dire.
Tout à fait. Ouais. C'est là où les choses se complexifient. C'est-à-dire qu'à partir de 1887-1888, il va y avoir un choc entre le mouvement des adversaires de Pasteur et puis la montée en puissance d'un mouvement populiste, qui est le boulangisme. Mmh. Où là, justement, se retrouvent des hommes de gauche qui viennent de la Commune, et puis aussi tout un courant réactionnaire de droite, etc. Et c'est vrai que ce courant boulangiste, un des plus grands porte-parole de ce courant proche de Boulanger, c'est Henri Rochefort. Il est très connu, hein, il est propriétaire et rédacteur de plusieurs journaux, dont l'Intransigeant, qui est un journal qui devient véritablement, à partir de 1887, le support, en quelque sorte, de résonance de toutes les critiques contre Pasteur de manière très virulente. Et je pense que c'est une
à la fois Rochefort et Louise Michel, quoi.
Voilà, exactement.
Voilà. Louise Michel qui a écrit un roman, qu'on n'a pas mentionné à l'antenne, je crois, contre Pasteur.
Contre Pasteur.
Et contre plus que contre Pasteur, de fait, c'est plus avec l'image du savant qui n'a aucun scrupule et qui va tout faire, qui va torturer tout un tas de gens pour faire ses découvertes médicales.
C'est ça, roman.
Et préserver une population minoritaire en exposant complètement l'autre.
Roman publié en 1886, qui commence justement on commence à voir poindre l'idée que derrière l'attaque à Pasteur, il y a une attaque sur, pas la science en général, mais sur une certaine science.
Mais c'est les microbiens le titre du roman ?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Les microbes.
Les microbes.
Enfin, les microbes.
Juste les microbes.
Tout simplement.
D'accord.
Et vous voyez, c'est ça qui est, bon, moi, qui m'a passionné hein, dans cette période, c'est qu'on est à un moment donné où la République commence à préparer le centenaire de la Révolution française. Bon, où finalement, qu'est-ce qu'on loue dans les valeurs républicaines ? Le progrès des sciences. Hein, et on voit bien comment il y a une collusion. Non pas que Pasteur ait tort à avoir fait ces vaccins, mais il est clair qu'on est dans un moment où Défendre Pasteur pour l'État, c'est aussi éliminer tout un ensemble d'oppositions venues de droite et de gauche, et de maintenir en quelque sorte une sorte de sacralité de l'État fondée sur le progrès scientifique.
Et avec aussi, dans l'imaginaire, des choses, moi je suis frappé par quand tu parles de l'ENS, puis de l'Institut, des choses qui sont encore très très ancrées en fait dans les imaginaires, y compris contemporains. Et finalement, il n'y a pas très longtemps, bon, on va faire une coupure parce que ça, on va réserver la fin de l'émission là-dessus, mais la science qui est dénoncée chez Pasteur, elle est pas loin de ce qu'on appelle le Big Pharma aujourd'hui, quoi. En fait, c'est du point de vue des catégories, on est là-dedans
tout
déjà
à fait,
finalement.
Tout à fait. En réalité. Exactement.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie. Vous venez d'entendre un petit morceau de Sherwood Pogo, La Rage, morceau de 85. Et c'est parce que, comme d'habitude, José est très très attentif aux livres et aux personnes qu'on présente dans l'émission. Et là, on a donc en invité Jean-Luc Chappet, historien, qui nous présente son dernier ouvrage, Pasteur et les Antivax, édité chez Agone. Et on a présenté d'abord le mythe de Pasteur, ensuite ses adversaires, et maintenant on va peut-être partir de ton point de départ qui est relativement actuel et qui est évidemment la crise du Covid. Et moi, un truc auquel je pensais qui me faisait un peu rire, c'était que tu vois, toi, ton livre, il part de la figure du savant qui défend le vaccin et qui s'oppose à une espèce de nébuleuse un peu bizarre. Et maintenant, en fait, on pourrait plus situer le savant ou la savante qui va défendre le vaccin. Et le scientifique, qui en quelque sorte va regrouper autour de lui une nébuleuse, c'est à moitié un escroc, c'est Raoult. Mais donc, là, il y a une espèce de bascule. Mais quel était ton point de départ qu'est-ce qui t'a amené vers cette question-là dans notre actualité?
En fait, moi, je pense que d'abord, le point de départ, c'est un point de départ politique, tout en étant favorable au vaccin. J'ai été, je pense, comme beaucoup, peut-être interrogé. J'ai été interrogé par les termes employés par Emmanuel Macron au moment où il fallait justement se faire vacciner, c'est-à-dire la guerre. Une sorte de manichéisme, en quelque sorte, entre les bons républicains et les mauvais républicains. Et puis, l'idée qu'il y aurait finalement une évidence vaccinale. Donc, même si on peut être d'accord, et que c'est pas forcément en situation de crise qu'on a des débats, moi, je me suis dit, c'est quoi l'origine de tout ça? Et c'est pour ça que j'ai cherché, en quelque sorte, à voir quels avaient été les débats au moment donné, au début de la Troisième République. Et c'est vrai que quand j'ai découvert un petit peu tout ce corpus, ça m'a obligé en fait à me réinterroger sur aujourd'hui. Donc mon point de départ, c'est finalement de dire quelle serait finalement la meilleure manière de répondre, ou du moins de lutter contre justement un certain nombre de discours anti-vax, voire anti-scientistes aujourd'hui. Et en connaissant l'histoire, on s'aperçoit que faut sans doute plus les prendre au sérieux et essayer justement. Alors moi, je suis peut-être assez frappé parce que c'est vrai que l'actualité aujourd'hui, c'est plus simplement le Covid, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec un ministre qui est anti-vax. Et puis l'actualité, c'est aussi le silence de notre République aujourd'hui, où finalement cette question, on va dire médicale, sanitaire, autour des vaccins, a complètement disparu du débat public. Et moi, je me dis que finalement, ce livre devrait permettre peut-être de relancer le débat, hein, et d'avoir pas du tout une... Je me mets pas dans une posture justement de pédagogue, mais au moins, je trouve qu'il faudrait parler des vaccins, parce que c'est vrai que se faire vacciner, si on y pense, c'est pas forcément si naturel que ça. Et si on n'explique pas aux gens pourquoi, si on ne débat pas avec les gens, bah, on risque à chaque fois qu'on se trouve dans une situation de crise à se retrouver finalement dans une situation de confrontation qui risque d'être de plus en plus radicale. Donc en fait, voilà, moi j'ai essayé modestement, parce que voilà, en tant qu'historien, on n'est pas forcément acteur d'un débat public, mais d'essayer de retrouver, de dire voilà, c'est pas nouveau ce qu'on vit. Qu'on peut retrouver un certain nombre de, je dirais, d'arguments. Il faut savoir que les arguments des anti-vax, hein, ils se renouvellent, mais finalement, ils puisent finalement à un corpus.
Oui, parce que tu dis que les anti-vax eux-mêmes font leur propre histoire.
Bien sûr. Et je pense que ça doit permettre, en quelque sorte, de mieux discuter, sûrement, hein, de reprendre, en fait, le contrôle d'une sorte de débat public autour des vaccins, et peut-être ouvrir ce débat public qui ne l'est pas du tout actuellement.
Ben, en fait, je trouve que moi, ton livre a un désintérêt. Enfin, tu me dis si c'était aussi ce que tu avais en tête. Mais à la fois, tu as ça, effectivement, le fait de redonner sa rationalité, de remettre en perspective historique les arguments des anti-vax. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment un des acquis, je trouve, à te lire. Tu as aussi une manière aussi de remettre en perspective, en fait, l'autorité d'État républicaine, quand même, dans des situations de crise comme celle-là. Parce que la Troisième République qui se dessine derrière la figure de Pasteur, c'est une République qui est autoritaire, qui est élitiste, tu le dis, qui, en fait, l'obligation vaccinale, c'est aussi une conception, en fait, voilà, du contrat social, des missions de l'État, de ce qui fonde son autorité. Enfin, je ne vais pas dire des grands mots, mais en fait, tout le monde on l'a vécu quand même. On l'a vécu de manière très très aiguë. Et je trouve que c'est aussi un des mérites de ton bouquin de rappeler ça, hein, le fait de dire que il y a derrière ça, on a un régime qui se sent menacé aussi comme ça. Alors effectivement, on en parlait un peu en off. Tu disais, il faudrait sans doute comparer la manière dont ça s'est passé ailleurs, etc. C'est pas franco-français cette affaire-là. Hein. Mais effectivement, il y a peut-être aussi des particularités, voilà, qui sont liées aussi à l'histoire de la République française. Et voilà, le confinement tel qu'on l'a connu, l'obligation, effectivement, l'espèce de discrimination des anti-vax, voilà, quand on était prêt à quasiment des déchéances de nationalité. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est quand même très, très étrange, finalement, quand on y réfléchit un peu. Parce que d'un coup, effectivement, tu as une espèce de d'autorité d'État, en fait, qui te tombe dessus, physiquement, je dirais. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en fait, tu es très prudent, en fait, dans la manière dont tu parles de tout ça. C'est que tu vas pas chercher des grandes catégories un peu fourre-tout à la biopolitique ou je ne sais quoi. Même, c'est évident. Là, tu en parles, je dirais, in situ, quoi, de ça. Comment ça se met en place, par quelles institutions, au sein de quel débat. Je trouve qu'il y a les deux. Hein, autant, effectivement, on en apprend autant sur les anti-vax que sur, je dirais, voilà, le discours d'autorité républicaine, quoi, là-dessus.
Tu as complètement raison. En fait, un des points clés de la réflexion que j'ai menée, c'est autour de ce qu'on pourrait appeler la raison d'État. C'est la raison d'État. Ouais. Et en fait, la Troisième République, à partir de Pasteur, construit une forme de raison d'État qui est particulièrement violente contre et pour stigmatiser tout un ensemble d'oppositions politiques. Et on a vu
et ça passe par le sanitaire.
Exactement. Et on a vu pendant le Covid, en fait, exactement la même chose. C'est-à-dire que bon, voilà, on a été sensible au fait que pendant cette période, la raison d'État, c'est quoi? C'est ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est l'État pédagogue et voilà. Et en fait, on retrouve cette idée d'éducation, de civilisation, qui a été celle de la Troisième République.
Et de la colonisation.
Et je trouve en effet qu'il y a ces moments-là où on voit se construire.
Et de l'école, comme tu disais.
Et l'école.
Les trois piliers, voilà. Ils sont là. Voilà.
Et je pense que ça va, voilà, cette période, ça, c'est en effet aussi une réflexion sur ce qu'est l'État et les formes de domination, hein, comment ça se construit. Mmh. Et on voit que le sanitaire, bah, ça joue un rôle particulièrement important.
Oui, parce que quand tu dis qu'effectivement, il n'y a plus que ces questions, elles sont, quand on est silencieux, qu'il n'y a plus de débat là-dessus. Mais tu rappelles aussi rapidement, alors pareil, de manière très prudente, et il faut l'être, tu as raison, je veux dire, mais les questions sont plus posées parce qu'il y a aussi, elles ont été réduites au silence, en fait, pour un certain nombre. C'est que dans leur dimension politique, en fait, on a un débat qui est quasi. Quasi interdit, je dirais. Enfin, bon, oui.
Oui. Bah, quand on voit justement comment réagissent justement les autorités scientifiques, on voit qu'il n'y a absolument pas d'espace de débat, de dialogue possible. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, les médecins nous disent que finalement, lorsqu'il y aura une prochaine épidémie qui arrivera, les vaccins seront plus performants, plus efficaces. Mais ça n'empêchera pas que si les gens ne veulent pas se faire vacciner, les vaccins pourront être plus efficaces. On va toujours assister à ce décrochage, en fait, à une science qui est une logique, en quelque sorte, de renouvellement, de progrès, et puis une population qui peut parfois légitimement se poser des questions. C'est pas facile de comprendre ce que c'est que la notion de bénéfice-risque. Si on l'explique pas, voilà, c'est pas facile. Et je trouve que, alors vous allez me dire, c'est pas au moment où ça se passe qu'on peut expliquer. Mais c'est vrai qu'au moment du Covid, ça a été particulièrement intéressant de voir réémerger en fait toutes ces problématiques.
Le tout, effectivement, avec un imaginaire qui finalement est tout sauf nouveau, quoi. Effectivement, quand on parle, enfin, voilà, la violence animale, voilà, la contrainte d'État sur l'individu, tout ça est là, quoi. Et effectivement, avec cette idée, voilà, de république sanitaire, quoi. Voilà, une république qui est pédagogue, voilà, coloniale et sanitaire. Voilà.
Exactement.
Et c'est on va peut-être s'arrêter du coup là-dessus. En tout cas, on invite vivement les auditeurs à aller lire ton livre, là, Jean-Luc, Pasteur et les antivax, hein, c'est chez Agon. C'était publié cette année. Donc, allez-y, c'est tout à fait passionnant.
Voilà, vous trouverez l'émission donc, sur le site Gurdulu, Jeudi Noir, Archives, avec tous les morceaux qui ont été choisis par notre ami José. Et puis, donc, on va vous laisser avec un dernier morceau de musique. Tu l'as sous les yeux, Jim. Mais.
Merci, au revoir.
Merci Jean-Luc d'être venu. Ça nous a fait bien plaisir.
Voilà, j'ai le morceau. Voilà.
Le morceau.
C'est du brésilien, moi je me lance pas. Hein.
D'accord. Ouh là là. Oh non, moi non plus. Idas et Osvaltas. Bon, je l'ai prononcé avec un accent épouvantable. Anti-progresso. Donc c'est un vrai morceau brésilien de 1986. On se retrouve donc pour la prochaine émission. Je ne sais pas trop quand elle aura lieu. À bientôt.
Cultura acabou. Qualquer coisa que eu cantar vai fazer sucesso. Este é o antiprogresso. Qualquer coisa que eu cantar vai fazer sucesso. Este é o antiprogresso.
Bonsoir, c'est GNC+, Radio Liberté 89.4, Yves au micro, émission enregistrée, et c'est le deuxième volet consacré à Darius Milhaud et Henri Dutilleux, et avec toutes nos excuses renouvelées pour les cafouillages de la dernière fois qui ont été émaillés par des incidents techniques indépendants de notre volonté. N'oubliez pas de télécharger la souscription car nous avons toujours besoin de votre soutien. Vous allez consulter le site de la radio, radiolibertaire.net, dans lequel vous pouvez trouver l'ensemble de la programmation des émissions. Vous pouvez réécouter toutes les émissions en podcast ou les télécharger pendant 12 mois après la diffusion. Vous pouvez regarder ma page GMC+ sur Facebook si le cœur vous en dit, et Jazzlib évidemment, puisque je fais les deux émissions. Alors ce soir, peu de blabla. On va écouter le plus de musique possible et non notamment de vous repasser les métaboles en entier parce que je suis vraiment désolé d'avoir été obligé de chanter. Donc je reviens très très rapidement sur Darius Milhaud, né le 4 septembre 1892 à Marseille, mort à Genève le 22 juin 1974, donc un des plus prolifiques, il a écrit beaucoup de choses. Donc là je vous propose très très vite, et après je voulais vous parler la dernière fois de la politique allemande pendant l'occupation concernant les musiciens juifs, dont évidemment fait partie Darius Milhaud, parce que je trouve que c'est intéressant, non pas pour paraphraser le contexte politique actuel sur lequel je ne me prononcerai pas puisque nous sommes sur une émission musicale, mais pour vous donner un petit peu la teneur de ce qu'était la politique allemande à cette époque, et évidemment ça concernait également le jazz. Donc nous allons commencer par écouter une œuvre qui est... Alors je déroge un petit peu à la désignation de mon émission qui est plutôt liée à la musique de la fin du 19e, début 20e jusqu'entre les deux guerres, puisque là il s'agit du concerto pour harpe opus 323 de 1953, mais qui a été présenté en 1954 et qui a donc exactement mon âge. Voilà, donc c'est une œuvre en trois mouvements, un premier mouvement assez long, un deuxième mouvement un premier mouvement qui est assez divers dans sa description narrative, quelque chose d'un petit peu varié. Le deuxième qui est un petit peu plus sombre, un peu plus lent. Et le troisième, on retrouve ensuite l'enthousiasme habituel de Darius Milhaud. Il est à noter quand même dans cette œuvre, lorsqu'on écoute beaucoup de ces musiciens, on s'aperçoit qu'ils ont été pillés par le cinéma en musique de film, où on va retrouver énormément de choses dans les films de science-fiction, dans les films d'horreur ou de ce genre, dans les policiers, dans les polars. Enfin, voilà, ce sont des musiciens qui ont exploré énormément de choses. Darius Milhaud a plus de 400 œuvres à son actif, dont et dans tous les azimuts, hein, concerto pour piano, pour harpe, là, comme la musique vocale, le chant. Enfin bon, donc il a expérimenté énormément de domaines, et donc eh bien les compositeurs de musique de film ont pu y puiser à loisir. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure.